Ce que j'ai souvent constaté, qu'il y a une certaine déformation très répandue chez nos fidèles en ce qui concerne l'image de Dieu. Si vous demandez à n'importe quel enfant ou bien le parent d'esquisser Dieu, l'invisible, tout simplement d'une manière symbolique, n'est-ce pas? Vous ramassez les feuilles et vous trouverez des images toutes différentes, toutes sortes d'expressions, accents mis par-ci, par-là, donc une différence très, très frappante, je dirais, en ce qui concerne nos conceptions chez les uns, chez les autres, en ce qui concerne Dieu. Nous parlons dans l'orthodoxie de la Sainte Trinité, nous parlons bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ, et je crois que nous avons plus ou moins une idée de qui c'est Jésus, d'après les témoignages bibliques, image aussi déformée par une certaine piété, surtout provenant du Moyen-Âge ou du XIXe siècle, où le visage du Christ même était rendu tellement mièvre à certains égards que lui aussi, il disparaît dans une espèce de une ombre de, je dirais même, de malentendu. Alors, qui est Dieu? Qui est Dieu pour vous, pour moi, pour nous, en tant que chrétiens orthodoxes? Autrement dit, quel est ce Dieu que Jésus lui-même révèle? Les images traditionnelles ont été déformées, me semble-t-il, par notre culture athée, agnostique, mais aussi par un manque de formation catéchétique, chez nous tous, n'est-ce pas? Et aussi, bien sûr, par notre péché, et surtout notre péché qui prend la forme d'un désir de transformer Dieu, de recréer Dieu à notre propre image, à notre propre image. Tout cela représente une déformation. Pour vous donner quelques exemples de ce que je veux dire, nous pouvons faire appel, bien sûr, aux images populaires de Dieu. Peut-être celle qui est la plus répandue, malheureusement, cela provient aussi du Moyen-Âge occidental, c'est l'image de Dieu juge, mais juge tyran, le tyran. Juge est là pour nous juger, Dieu est là pour nous juger, pour nous condamner, pour nous punir pour nos péchés. Le but principal de Dieu, c'est d'installer dans le fond de notre cœur une sorte de culpabilité à cause de nos manquements, etc. Et quand on essaie de creuser chez les uns, chez les autres, les origines de ce genre d'image, on trouve très souvent que les jeunes, mais les personnes beaucoup plus âgées aussi, nous avons eu toujours tendance à identifier Dieu inconsciemment avec notre propre père ou une autre figure, une autre personnalité qui détient une certaine autorité dans notre vie et qui effectivement a imposé sur nous un jugement, a fait grandir en nous une certaine culpabilité. Et par conséquent, nous avons tendance à projeter ça sur Dieu le Père. Je ne sais pas, je suppose que c'est pareil pour toi, Père Gibco. Souvent, trop souvent, des personnes viennent à la confession, par exemple, en disant « Je ne peux pas appeler Dieu Père. Pourquoi ? Parce que, franchement, mon propre Père m'a tellement abusé, négligé, représenté une telle menace pour moi que appeler Dieu Père, pour moi, c'est affreux, c'est effrayant. Je ne peux pas. » Or, comme réaction contre ce genre d'image du Dieu juge tyran, l'imagination populaire a créé d'autres images, n'est-ce pas? Le bon Dieu, le Dieu Père Noël, où il est tout gentil, tout sympa, où il n'exige rien. Il est là. Il est là quand nous faisons appel à lui. Mais autrement, il nous laisse en paix. Tant mieux. tant mieux. C'est curieux, je me rappelle bien quand je suis monté du métro, il y avait un bistrot longtemps disparu maintenant, au coin de la rue, métro en allant vers Saint-Serge. Et chaque matin, il y avait un petit groupe de communistes, ouvriers, dans le bleu, le gauloise collé à la lèvre, n'est-ce pas? Et puis ces gens athées, qui parlaient la politique chaque jour, c'était passionnant d'arrêter un peu, regarder dans les vitrines et écouter, n'est-ce pas? Alors, à 1000 reprises, ils ont invoqué le nom du bon Dieu. Ah, le bon Dieu va, n'est-ce pas? Et ça, c'est le fond athée qui s'exprime de cette façon-là, n'est-ce pas? Mais pour ma femme et moi, j'avoue, lorsque nous sommes venus ici pour la première fois en France, la première fois, c'était en 65, je pense, ou 66, nous avons été très frappés que même dans les milieux dits athées, il y avait un vieux fond catholique qui permettait aux gens de faire appel au bon Dieu, et ils y croyaient. Comment exactement? Difficile à définir. Mais il y avait cette réalité, n'est-ce pas, dans leur expérience, dans leur vie, dans leur esprit. Et cela, je pense, pour une raison absolument fondamentale. C'est-à-dire, comme une sœur catholique m'a dit une fois, Dieu a mis dans le fond de notre cœur une soif de lui, une soif intarissable. Et ça va de pair avec une véritable image de Dieu. Donc, si nous pouvons creuser toujours à nouveau, je crois que nous sommes à même de retrouver, redécouvrir cette image, pourvu que nous sommes capables également de nous éloigner, de rejeter ces images, par exemple du bon Dieu, le Père Noël, le Dieu grand-père, tout bon, tout gentil. Mais il faut aujourd'hui rejeter aussi une autre image de Dieu, très très répandue, surtout dans les milieux intellectuels d'ailleurs, ce qu'on peut appeler le Dieu bouche-trou. Le Dieu bouche-trou, n'est-ce pas? Rendu toujours plus petit et moins nécessaire par des découvertes scientifiques. Et un jour, on va arriver où le Dieu bouche-trou est tellement petit qu'on n'en a plus besoin, n'est-ce pas? Or, tout ceci pose un problème qui est à la fois théologique et spirituel. Théologique parce qu'il s'agit d'un rejet de la révélation biblique où Dieu se révèle comme celui qui est, qui existe. Mais spirituel aussi parce que toutes ces fausses images de Dieu, et tous nous les avons, je pense, au moins en partie, mais ces fausses images ont toujours tendance à mettre en question notre relation avec Dieu. J'aimerais entrer en communion avec une personne, et si mon image de cette personne est tout à fait fausse, tout à fait déformée, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. Pas de communion qui est possible. Or, il en est de même en ce qui concerne notre relation avec le vrai Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Dieu tel qu'il se révèle. Et l'essentiel dans notre vie chrétienne, je dirais, c'est de cheminer vers ce que le Père Sophronie a repris des Saintes Écritures, vers le point où nous pouvons voir Dieu tel qu'il est, tel qu'il est. La question est de savoir, bien sûr, comment faire ce cheminement-là. Et je crois qu'il faut, comme réponse, proposer aux gens, à nous-mêmes, à nos paroissiens, à nos fidèles, à nos jeunes, nos enfants, à revenir toujours à nouveau à ce que nous appelons les sources de la foi orthodoxe. Commençons par les Écritures saintes, l'Évangile surtout, mais aussi l'interprétation de la Bonne Nouvelle chez saint Paul, chez d'autres auteurs néo-testamentaires. Revenir donc aux sources, l'Écriture sainte en premier lieu, et en particulier l'enseignement de Jésus. Mais ceci est complété par un retour au Père de l'Église. Parce que bien que les Pères souvent représentent des points de vue qui ne s'accordent pas l'un avec l'autre, néanmoins, les Pères ont une optique, un phronema, comme on dit, une mentalité, un esprit, une perspective qui est beaucoup plus proche, historiquement parlant, des événements de la vie du Christ que notre époque actuelle. Mais les pères avaient aussi des intuitions inspirées qui leur ont permis d'entrer en communion avec le Christ de façon presque intuitive, spontanée, une véritable communion. Et c'est cette perspective patristique qui peut nous guider dans toute notre lecture des Saintes Écritures. Et puis ces deux sources, Écriture et source patristique, peuvent être complétées par la prière essentielle, par la prière à la fois liturgique et communautaire, mais aussi personnelle. La communauté se rassemble autour de la liturgie. La liturgie nous nourrit, nous donne un langage, nous fournit des images de la divinité, de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et puis, en même temps, nous devons prendre ce que nous recevons de ces trois sources, Écriture, patristique et puis liturgie, et entrer dans le silence, dans la solitude de notre chambre, nous mettre en silence devant Dieu et demander que l'Esprit fasse son travail dans le fond de notre cœur, afin de transformer quelque chose d'essentiel dans notre être même. J'aimerais, avant de passer à l'enseignement du Christ, esquisser très rapidement l'image de Dieu, telle que cette image se révèle à travers l'Ancien Testament. Et cela parce que ce que nous appelons l'Ancien Testament, donc les Écritures hébraïques, cela était l'Écriture de Jésus, n'est-ce pas ? Quand Jésus parle de l'Écriture, il ne veut pas du tout dire le Nouveau Testament. C'est ce que nous appelons l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, les écrits. Or, qui est Dieu dans l'Ancien Testament et dans l'expérience de son peuple Israël ? Il faut se rappeler qu'au début, les Israélites étaient des polythéistes. Polythéistes. Avant de se réunir en une amphictyonie, donc une confédération de tribus, il y avait un polythéisme très répandu, n'est-ce pas ? Petit à petit, ce polythéisme prend la forme de ce que l'on appelle un énothéisme, où il y a un Dieu, mais un Dieu principal, entouré d'autres formes de divinité. Et un vrai monothéisme en Israël ne commence qu'au temps de l'exil, 6e siècle avant Jésus-Christ, surtout par le prophète Jérémie. Et le monothéisme typiquement israélite, trouve son accomplissement, son achèvement, surtout dans les écrits de celui que nous appelons le Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire l'auteur de la prophétie d'Isaïe, chapitre 40 à 55. Israël existe. Et je crois qu'on peut dire que les Juifs, le peuple juif, existe encore aujourd'hui à cause d'un événement clé dans leur existence, aussi important pour eux que l'incarnation du Christ est important pour nous. Il s'agit de l'Exode. L'Exode d'Égypte, l'Exode qui a eu lieu, pour autant qu'on puisse le préciser, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, le peuple élu, forme à cette époque-là une confédération dont l'unité fut fondée et maintenue par la foi en le Dieu qui s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Moïse gravit la montagne, Dieu fait appel à lui, et sa réponse, Comment est-ce que je peux t'identifier au peuple? Quel est ton nom? Parce que dans l'Antiquité, connaître le nom d'une personne, c'est avoir une certaine puissance, même sur la personne, un certain pouvoir, n'est-ce pas? Le nom transmet la réalité personnelle de chaque être humain. Alors, Moïse veut savoir quel est ton nom. Et Dieu répond en grec, Egoimi oon. Je suis. Je suis. Je suis l'existant. Mais ce n'est pas un nom. Et, mais oui, c'est un nom. Que signifie tout cela en langue hébraïque ou bien en grec? Difficile de le savoir. Mais je crois que la majorité des interprètes aujourd'hui prennent cette affirmation en Exode 3, verset 14. Je suis, ou je le suis, ou je suis ce que je suis. Maintes façons de le traduire. Mais normalement, on le prend dans un sens causatif. C'est-à-dire, Dieu veut dire que je suis la cause de toute chose. Autrement dit, c'est l'affirmation de son rôle en tant que créateur. Je suis créateur. Donc, Dieu se révèle par son nom. Il y a beaucoup de noms accordés à Dieu dans l'Ancien Testament, chez les prophètes, chez les psaumes, les psalmistes. Je nomme quelques-uns tout simplement comme ça. Encore une fois, il faut se rappeler que les noms communiquent l'essence de la personne. Pas l'essence dans le sens technique, philosophique, mais l'essentiel de la vie personnelle de Dieu s'exprime à travers ces noms. Et la racine de ces noms dans leur ensemble, c'est El, E-L en français. Donc le El qui... C'est fondé sur une racine sémite qui signifie puissance, puissance. Et ce nom de El est devenu très rapidement synonyme du tétragrammaton, c'est-à-dire les quatre lettres que nous traduisons d'habitude par Yahvé. On dit aussi Jéhovah, mais ça c'est un malentendu. Voyelles en hébreu peuvent être interprétées de plusieurs façons, mais rappelez-vous que le nom Jéhovah ne correspond pas au témoignage vétérotestamentaire. C'est donc Yahvé. Les Juifs ne prononceront même pas ce nom-là par respect, n'est-ce pas? Pour eux, c'est Adonai. Et ils voient Yahvé dans le texte, ils disent Adonai. C'est une façon de substituer, on peut appeler cela un euphémisme, mais ce n'est pas juste. C'est tout à fait une expression de respect, d'amour, n'est-ce pas? De vénération, d'adoration. Chez les fidèles juifs, c'est extraordinaire voir ce genre d'attention prêtée à la signification du nom. Alors, quels sont les noms basés sur ce mot « El » qui paraissent à travers l'Ancien Testament? Il y a donc « El Shaddai », Dieu de la montagne, utilisé surtout par Job, la montagne donc de Sinaï, qui exprime sa majesté divine. Dans le Septante, « El Shaddai » est traduit souvent par « Kyrios », Seigneur, ou bien par « Pantocrator », le Tout-Puissant. Un autre nom, El Elyon, celui qui est exalté. Notez les adjectifs, notez les qualificatifs, parce que tout cela nous donne une idée de qui ce Dieu était dans la vie, dans l'expérience des anciens Hébreux. El Elyon, celui qui est exalté. El Olam, Dieu l'Éternel. El Berit, Dieu de l'Alliance. Et puis, le plus souvent utilisé, rencontré, c'est Elohim, Elohim. Il s'agit là d'une forme plurielle qui reflète peut-être le polythéisme des anciens Israélites. De toute façon, ce Elohim, très rapidement dans l'expérience du peuple après l'exil, est devenu synonyme, une fois le nom Yahvé révélé sur la montagne, sur le mont Sinaï. Elohim et Yahvé sont devenus pratiquement parlant des synonymes. dans la Septante d'ailleurs, Elohim est d'habitude traduit par Théos, Dieu, tandis que Yahvé est d'habitude traduit par Kyrios, Seigneur. Mais il y a beaucoup d'autres noms qui nous donnent une bonne idée de la façon dont les Hébreux ont pu saisir la réalité, vivre la réalité de Dieu. Par exemple, Dieu paraît dans l'Ancien Testament aussi comme Père. C'est rare, mais la désignation existe. Il est aussi appelé frère, n'est-ce pas? Mais il est le rocher, le roi, le juge, le berger, et ainsi de suite. Et puis pour compléter ces noms, il y a aussi des figures que l'on attribue afin de nous donner un profil de ce Dieu. Il est fontaine d'eau vive, fontaine de vie. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il est en Daniel 7, 13, l'ancien des jours, qui signifie vraisemblablement, c'est une affirmation pour souligner le fait qu'il est le maître de l'histoire dans son ensemble. Dieu se révèle donc comme un Dieu vivant et agissant au sein de son peuple afin de produire le salut, les conditions de leur salut et les faire entrer dans une sorte de sphère de salut, de grâce. Alors Dieu est créateur, Dieu est Seigneur. Il est le Dieu de gloire, de majesté. Et sa majesté, aux yeux du psalmiste, par exemple, psaume 8 parmi d'autres, ce Dieu de majesté, de force, de puissance inouïe, se révèle à travers la nature. Donc, il se voit dans les étoiles, dans la forêt, dans les montagnes. Sa gloire est perceptible dans toute la nature ambiante. Mais ce Dieu, voilà l'antinomie, le paradoxe qui est le plus difficile pour nous. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qu'un physicien peut considérer comme le principe qui maintient en ordre toute chose, qui empêche que l'énergie qui nous constitue ne fait qu'on explose, n'est-ce pas? Que l'univers même disparaît. Qu'est-ce qui fait que vous et moi, nous traversons le temps et l'espace? Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables de vivre d'instant en instant? C'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Indicible, invisible, mais absolument réel. C'est Dieu. Mais en même temps, Dieu se révèle comme le Dieu humble, le Dieu personnel, le Dieu qui entre dans notre expérience comme une personne créée. Il crée une alliance, une communion avec nous, communion d'amour, d'abord avec son peuple Israël, mais à travers eux, avec le peuple de toute la terre. Dieu donc se manifeste à la fois dans sa gloire. Il se manifeste, il se révèle à travers l'Ancien Testament, souvent sous forme de théophanie. On peut appeler, ou on peut évoquer une de ces théophanies, ce qu'on appelle le Shekinah, la présence. Mais c'est la présence de lumière, présence de gloire, n'est-ce pas? La gloire exprimée par un très beau verset qui se trouve en Exode 24. La gloire du Seigneur se révèle comme un feu dévorant. Mais c'est Dieu qui se manifeste en puissance et en humilité. Ce Dieu se révèle aussi comme saint, agios. Le mot saint signifie séparé. Dieu est séparé de tout ce qui est faible, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est mortel, mais tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, tout ce qui fait nuire aux hommes et à la création tout entière. Et ce Dieu qui est saint nous appelle à entrer dans la sphère de sa propre sainteté. Soyez saints, dit Jésus, reprenons un verset de l'Ancien Testament. Soyez saints, comme votre Père saint, Père céleste est saint. Le prophète Isaïe va identifier ce Dieu comme le Saint d'Israël, n'est-ce pas? Et la sainteté elle-même englobe deux réalités qui paraissent contradictoires, mais qui font une synthèse remarquable entre jugement et pardon. Dieu est juge. Il est juge. Mais son jugement se fait toujours en vue du pardon pour tous ceux qui l'acceptent. La caractéristique peut-être la plus fondamentale de Dieu, attribuée à Dieu, s'exprime par le mot hébreu « chesed ». Chesed. Covenantal love en anglais, c'est bien. En français, bienveillance, c'est pas mal, mais ça ne dit pas exactement la même chose. C'est une bonté, mais qui découle de l'alliance d'amour que Dieu établit entre nous et lui. Alliance d'amour, Exode 34 de nouveau, Dieu est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère. Lent à la colère. Or, ce mot colère évoque chez beaucoup une certaine misère. Qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu? Saint Paul en parle surtout dans l'Épître aux Romains. Ogi Theou, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si je vous ai dit cela. J'ai eu l'occasion de me rappeler de cela lors d'une petite causerie il y a quelques années. De toute façon, une fois quand j'étais à l'Institut, donc aux États-Unis, c'était un institut de théologie, il y avait un professeur allemand avec un accent bien plus fort que le mien, imaginez-vous. Et il a parlé pendant tout le séminaire à propos de la colère de Dieu. Et finalement, sans du tout comprendre réellement ce que lui voulait dire, ni ce que voulait dire Saint Paul, je lui ai posé la question, tout simplement, mais professeur, qu'est-ce que c'est « the wrath of God » Qu'est-ce que c'est la colère de Dieu? Et il a hésité pour un instant, il m'a regardé, il a dit, je le dis en anglais, the wrath of God, c'est de nous laisser, qu'est-ce qu'il a dit, pardon. Ah yes, the wrath of God is to let us stew in our own juice, avec cet accent. Donc, autrement dit, nous permettre de subir toutes les conséquences de notre propre révolte, notre propre péché. Bref, ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous qui nous jugeons, n'est-ce pas? C'est nous qui imposons le jugement sur nous-mêmes, c'est nous qui évoquons la colère de Dieu qui n'est rien d'autre qu'un jugement basé sur notre propre conduite, notre propre attitude. Alors, colère de Dieu, si on lit certains des prophètes, effectivement, ça peut faire peur. Si on le prend littéralement, si on le prend comme il faut avoir peur devant Dieu. Dieu peut nous anéantir à n'importe quel instant, n'est-ce pas? Et néanmoins, comme dit Isaïe, chapitre 54, la colère de Dieu n'est que pour un moment, tandis que sa tendresse, son amitié seront sans fin. Et voilà la perspective qu'il faut maintenir. Alors passons rapidement à la question de l'enseignement de Jésus. Jésus fut formé, vous le savez bien, par la tradition vétérotestamentaire. Il a reçu également une révélation directe, immédiate de son Père. Et comme fils éternel de Dieu, une personne de la Sainte Trinité, Jésus est lui-même Dieu. Donc, parler de la révélation accordée par Jésus, il faut comprendre qu'il s'agit d'une auto-révélation. Et c'est comme ça que nous pouvons affirmer que nous voyons la face de Dieu le Père dans le visage du Christ, dans la face du Christ, le Fils de Dieu. Jésus, donc, est en parfaite continuité avec l'Ancien Testament, mais lui, dans sa personne même, il est l'image visible du Dieu invisible. C'est lui la vraie icône de Dieu le Père, Colossiens 1:15. En Christ, toute la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, comme toute l'histoire de salut, sont accomplies. L'Ancien Testament, donc, est prophétique. Et l'accomplissement de cette prophétie se réalise dans la personne et l'œuvre du Fils éternel de Dieu. Jésus est bien formé par l'Ancien Testament, mais bien sûr, il amplifie la révélation vétérotestamentaire de manière radicale. Pour Jésus, dans tout son enseignement, Dieu est toujours créateur, Seigneur, juge, source de salut. Jésus l'identifie pourtant comme amour et comme Père. Ces deux aspects, ces deux caractéristiques propres à Dieu, se trouvent en filigrane à travers l'Ancien Testament, mais ces deux aspects trouvent leur accomplissement réellement dans la personne de Jésus même. Jésus révèle Dieu le Père, comme pour employer le langage surtout occidental, n'est-ce pas, du Moyen Âge, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, tous les omnis que vous voulez. Mais, ceci dit, il faut souligner le fait que tout cela signifie que Dieu est en même temps personnel. Il est une hypostase, une personne dont notre hypostase, notre vie personnelle, n'est qu'un pauvre reflet. Dieu se révèle aussi dans la personne de son Fils comme Abba. Et c'est une immense grâce que vous et moi, nous pouvons, nous aussi, appeler Dieu Abba. Père, notre Père qui es aux cieux. Lors de la résurrection, Jésus dit à Marie, « Va dire à tes frères, tes sœurs, que je suis ressuscité et je monte vers mon Père et votre Père, n'est-ce pas ?» Donc, nous sommes pris dans ce mouvement filial, de sorte que nous aussi, d'après le prologue de l'Évangile selon saint Jean, l'accomplissement de notre vie se trouve dans le fait que nous pouvons devenir nous aussi enfants de Dieu. Qui est Dieu donc? C'est le Dieu Tout-Puissant qui crée toutes choses, qui tire tout du non-être à l'existence, la notion de la création ex nihilo. Dieu est une puissance cosmique qui sous-tend tout, absolument tout, qui règne sur l'ensemble du temps et de l'espace. Dieu est le Seigneur de l'univers, le Maître souverain sur le monde et sur toute vie humaine, personnelle. Dieu de majesté, Dieu de gloire, qui inspire une profonde peur dans le cœur de tous ceux qui le reconnaissent tel qu'il est. Il nous façonne et il nous juge. Il détient tout pouvoir pour nous accorder la vie ou pour nous plonger dans les éternelles ténèbres de la mort. Mais, encore une fois, il est aussi le Dieu humble, dont l'amour pour ses enfants, nous, ne connaît aucune limite. Dieu est l'amour, amour sans limite, nous dira le Père Lev Gillet. Amour qui se sacrifie, amour qui se donne, afin de nous sauver des conséquences de notre propre révolte, de notre refus, de notre péché, et pour nous libérer en vue de la vie éternelle. Alors, pour résumer, je crois qu'on peut dire grosso modo ceci. Le défi actuel qui se fait dans notre vie, c'est de réconcilier par la foi ces deux pôles d'une antinomie. L'image du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et l'image du Dieu personnel, humble, plein de miséricorde envers tous ses enfants. D'une part, Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Auteur de vie, il tire toutes choses du non-être à l'existence. Il est le archi, premier mot de la Genèse, de l'Évangile selon saint Jean. Il est le principe de base, le principe fondamental de toute réalité qui puisse exister. C'est lui qui gouverne la naissance des galaxies et le mouvement des particules subatomiques. C'est lui qui crée, qui soutient l'existence de chaque être humain. Mais, d'autre part, il est le Dieu d'amour et de tendresse qui cherche toujours à nous sauver, à nous transfigurer, à nous faire passer de la mort à la vie, afin que nous puissions nous réjouir de sa gloire éternelle. Il est donc, comme on dit, le Dieu qui est plus proche de nous que notre cœur. Or, pour découvrir l'image de Dieu, il faut chercher d'abord la face de Jésus-Christ, lui qui est l'image visible du Dieu invisible. Je dirais que dans les moments de doute, dans les moments d'angoisse, de tentation dans notre vie, face à la souffrance et menacée par la mort, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, nous sommes invités à retourner aux sources premières de notre foi orthodoxe, à l'Écriture sainte une fois, encore une fois, à la tradition des saints-pères de l'Église, à la richesse théologique et spirituelle de la liturgie de l'Église. C'est bien là où nous retrouverons le visage meurtri de Jésus, celui qui est serviteur souffrant, qui assume pour nous les supplices de la croix, qui nous accompagne à travers la mort jusqu'à la vie éternelle. Par lui et en lui, nous découvrons la vraie face, le vrai visage, la vraie personne de Dieu, un Dieu plein d'amour, rayonnant de gloire, et il faut dire aussi, d'une beauté ineffable. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, mais dans l'espoir que, surtout pendant cette période de carême qui est devant nous, nous puissions entrer de nouveau dans notre propre mentalité, dans notre propre esprit, dans nos propres, presque au niveau de nos instincts, pour voir où nous sommes par rapport à ce Dieu. Est-ce que nous avons banalisé Dieu jusqu'au point où il n'existe plus, sauf sous forme d'idole que nous avons fabriquée nous-mêmes, ou est-ce qu'il s'agit réellement du Dieu de majesté, de gloire, de puissance, le Dieu terrifiant, qui est en même temps le Dieu d'un amour, un amour qui est sans fin. Voilà.